Eh bien, chers amis, vous l'avez bien compris, je ne suis pas venu ici pour vous apporter mes propres pensées, mais pour écouter avec vous ce que nous enseigne l'Écriture. Car nous croyons que l'Écriture est la parole de Dieu. Et si nous connaissons la parole de Dieu, eh bien, 2 ans avant l'an 2000, nous sommes sans crainte. Nous avons seulement une grande joie et été heureux d'entendre dans vos actions de grâce, dans vos prières, signaler ce que nous attendons. Nous attendons Jésus. Et avec Jésus, nous aurons la plénitude. Car à ce moment-là, nous qui avons si souvent souffert de notre misère, de notre faiblesse, de nos manquements, tout à coup, nous lui serons rendus semblables dans sa perfection absolue, car il est dit, nous le verrons tel qu'il est. Et quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons alors complètement transformés. Eh bien, qu'il est doux, qu'il est bon pour nos cœurs, déjà sur la terre, de pouvoir contempler le Seigneur Jésus. Mais vous me direz, mais comment pouvons-nous le contempler? Comment pouvons-nous le voir aujourd'hui? Eh bien, en lisant sa parole. Et quand il m'a été demandé si je pourrais consacrer quelques heures à la matière, je me suis tenu devant Dieu en lui demandant « Que veux-tu que nous étudions de ta parole ?» J'avais envie de vous mettre un titre et puis après j'ai pensé que vous essayeriez vous-même de donner une réponse, de sorte que j'ai renoncé à mettre un titre. J'aurais peut-être dit, est-ce qu'aujourd'hui, en 1998, l'exemple de Jésus et son enseignement sont-ils encore valables pour nous, dans nos vies de tous les jours, dans nos difficultés? Alors on aurait mis un point d'interrogation, puis vous auriez déjà un peu cherché, mais comme ma femme me le disait, ils diront bien sûr que c'est encore valable. Bien sûr, hein. On est toujours d'accord. Puis au fond, on ne vit pas des possibilités que nous pourrions avoir aujourd'hui si nous prenions au sérieux les paroles de Jésus. Si ce sont les paroles de Dieu, elles sont encore valables pour aujourd'hui. Et si vous vous emparez aujourd'hui de ces paroles, vous avez la délivrance. Et une vie de louange, eh bien, j'étais très heureux ce soir que nous ayons cette louange, mais une vie de louange, pour qu'elle soit toujours spontanée, elle vient de ces délivrances actuelle et quotidienne que nous avons quand nous avons pris dans la foi une promesse de Dieu. Vous avez une difficulté? Que dit la parole? Est-ce qu'il y a une réponse dans la parole au sujet de cette difficulté? Et si vous connaissez la parole, vous vous emparez de ce texte, non pas vous allez piquer un texte, hein, parce que vous pourriez tomber à mal, hein, mais le Saint-Esprit vous rappelle un texte qui répond à votre besoin. Et alors, quand vous avez ce texte, qu'est-ce que vous dites au Seigneur? Vous allez à lui avec ce verset. Et vous lui dites, tu as dit cela, Seigneur. Il y va de ta gloire de me répondre. Non pas parce que j'en vaux la peine, parce que je suis très pieux, c'est pas cela, mais je sais que tu peux me répondre. Tu as répondu à Abraham, tu as répondu à Isaac, tu as répondu à Jacob, des hommes qui étaient des pécheurs comme nous. Il a répondu à un Élie, dont il est dit qu'il avait les mêmes passions que nous. Et pourquoi ne nous répondrait-il pas, si c'est le même Dieu? Et c'est le même Dieu. Quand Jésus a parlé de Dieu, de son Père, il a dit qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Jésus-Christ, c'était le Dieu des patriarches, c'était le Dieu des pères de l'Ancien Testament, et en Jésus-Christ, ce Dieu s'est révélé comme notre Père. Et vous savez, c'est quelque chose de savoir aujourd'hui, dans les difficultés présentes, que nous avons un Père. Et que ce Père a dit qu'il prendrait soin de nous. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses. Et dans ce « toutes les autres choses », vous pouvez tout y mettre. Hein? Toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Nous devrions être donc des hommes et des femmes qui débordent de louange et qui ne cherchent pas ce qu'ils ont à dire aux autres. Quand nous entendons ce qui se passe, on n'entend que des plaintes. Les gens se plaignent. Ce sont les derniers temps, les derniers jours, et les gens se plaignent continuellement. Eh bien, le croyant, au lieu de se plaindre, il devrait parler des réponses qu'il a reçues, et de la louange devrait jaillir de son cœur. Quelque chose de vrai et qui recommande votre Seigneur dont vous désirez parler au monde. Alors, mes amis, quand j'ai prié, que je me suis tenu devant Dieu, il m'a conduit au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Et je ne voulais pas mettre chapitre 4 de l'évangile de Jean simplement comme titre, mais il fallait mettre un titre. Alors j'ai hésité un peu, mais en lisant chapitre 4, j'ai lu une femme de Samarie. Une femme de Samarie avait rencontré Jésus. Et alors, j'ai mis comme thème cette femme de Samarie. Et tout de suite, pour que vous puissiez avec moi lire ce texte et en être imprégné pour toute la fin de semaine, hein, parce que nous allons y rester avec cette femme de Samarie, et voir ce que l'on peut retirer de ce chapitre. De sorte que je vais vous le lire, en faire la lecture cursive, et puis nous allons ensuite le méditer et voir ce que chaque verset, chaque parole même, peut nous dire actuellement et répondre aux besoins de nos cœurs, ces besoins que moi je ne connais pas, mais que le Saint-Esprit connaît et auxquels Jésus lui-même veut répondre, comme il a répondu au cœur de cette femme. Vous connaissez ce chapitre. Je me suis dit, si j'annonce la femme samaritaine, ils diront, on la connaît cette histoire. Il n'a rien de plus à nous dire de non. Mais peut-être que le Seigneur a quelque chose à vous dire. Ça, c'est une autre affaire. Comme il m'a parlé à moi-même. Car quand on lit le chapitre 4 de la femme qui nous rappelle l'histoire de la femme de Samarie, on ne peut pas ne pas penser au chapitre 3. Qu'est-ce qui s'était passé au chapitre 3? Ce n'était pas une femme, c'était un homme. Ce n'était pas une femme plus ou moins païenne, c'était un homme très religieux et qui avait cherché à connaître Jésus. il l'avait entendu en Judée, à Jérusalem, il l'avait vu et il avait été impressionné. Alors, dans le chapitre 3, donc qui précède notre chapitre 4, on a l'histoire d'un homme qui voudrait en savoir plus au sujet de Dieu. Et je pense qu'ici, vous avez une certaine connaissance, et même une grande, une profonde connaissance de Dieu, puisque vous vous réunissez selon ses pensées, en vous aimant les uns les autres, et en cherchant dimanche après dimanche de répondre au désir du cœur du Seigneur qui a dit avant de quitter les siens, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et je crois que dimanche après dimanche, vous aimez à répondre au désir du cœur de Jésus en vous rappelant ses souffrances, sa mort, le grand amour dont il vous a aimé. Eh bien, si vous êtes un peu comme Nicodème, qui a vu déjà le Seigneur, qui l'a entendu, mais qui voudrait en savoir plus sur ce que Dieu est, eh bien, vous lisez le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, où vous voyez un homme qui, dans la nuit, essaye de rencontrer Jésus. On a souvent critiqué Nicodème de l'avoir cherché dans la nuit, puis on a dit que c'était un peu heureux, qu'il avait peur de ses frères, qu'on sache qu'il le cherchait. Bien, je vous dirais tout simplement, il vaut mieux le chercher dans la nuit que de ne pas le chercher du tout. Eh bien, Nicodème, il a été, oui, tel qu'il était, avec ses craintes, il est allé trouver Jésus. Puis, évidemment, il lui a fait des compliments. Mais le Seigneur n'a pas besoin de compliments. Il n'aime pas simplement qu'on parle bien de lui. Et c'est ce que Nicodème a voulu montrer, qu'il avait été impressionné. Quand il vient de lui, il dit, nous savons, il parle de certaines personnes avec qui déjà il a osé parler et qui ont un peu la même impression. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et alors, la réponse de Jésus est très simple. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En quelque sorte, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, parce que tu n'es pas né de nouveau. Et ce Nicodème, tout en étant théologien, n'y comprend rien. Et même il dit une bêtise. Hein. On a pensé qu'il avait dit ça pour se moquer un peu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Puis il ajoute, est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître? Quelles que soient les pensées qu'a eu Nicodème, eh bien, il n'y comprenait rien. Alors Jésus lui explique en lui disant, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, peut-être qu'il commence un petit peu à se souvenir qu'il y a dans l'Écriture des textes qui parlent d'une nouvelle naissance. Et comme il était théologien, eh bien, il pouvait aller dans le livre d'Ézéchiel et apprendre là, s'il l'avait oublié, qu'un jour, eh bien, Dieu pourrait opérer une chose merveilleuse en faisant naître de nouveau des créatures pécheresses. Nous avons cela. Vous connaissez le livre d'Ézéchiel? Dans quel chapitre est-ce que nous trouvons cela? Vous l'avez trouvé? Ézéchiel, chapitre 36, au verset 25e, du chapitre 36e, le prophète avait dit, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » C'est vraiment la conversion qui se produit là. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai quoi ? Un cœur de chair. » Pas un cœur charnel, mais un cœur qui n'est pas un cœur de pierre, un cœur sensible. « Je mettrai mon esprit en vous. » Alors vous voyez, naître d'eau, il est parlé de l'eau avant, et puis naître de l'esprit, « Je mettrai mon esprit en vous. » Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. Puis il y a les bénédictions qui sont souligné après. Voilà ce que Jésus rappelle à Nicodème quand il lui dit « Ce qui est né de la chair est chair », verset 6 du chapitre 3, et voilà pourquoi je t'ai dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Alors, quelle est la réponse de Nicodème? Est-ce qu'il a compris? Non. Comment ces choses peuvent-elles se faire? Alors, dans ce chapitre, vous voyez un homme qui cherche Dieu, qui le rencontre de nuit, et qui est enseigné par Jésus, mais qui ne comprend rien. Il comprendra plus tard, c'est vrai. Tandis que dans le chapitre 4, que je vais vous lire, vous allez trouver là une femme qui ne sait rien, qui est une pécheresse, et qui comprend tout. Ça vaut la peine. Et qui à qui le Seigneur peut révéler les doctrines les plus profondes dont nous avons tellement besoin aujourd'hui encore. Dans le chapitre 3, donc, on est resté sur une question, comment ces choses peuvent-elles se faire? Je ne sais pas s'il y en a qui en sont là et qui se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Comment cela peut-il se faire? Eh bien, je pense qu'au cours de cette soirée ou de ces soirées, de ces journées, le Seigneur parlera. Dans le chapitre 4, donc, on a situé le chapitre 3, c'était à Jérusalem, en Judée. Beaucoup de gens avaient vu le Seigneur et prétendaient croire, mais qu'est-ce qu'il est dit? Le sentiment du Seigneur, il ne se fiait pas à eux. Quand on est devant une salle où il y a plusieurs personnes, on pourrait penser, puisque tous sont venus pour écouter la parole, que tous sont au Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas si sûr que cela. Ce n'est pas si sûr que cela. Que nous soyons tous au Seigneur, que nous appartenions tous au Seigneur. Et pourtant, nous devrions être sûrs de cela. Est-ce que nous sommes sûrs d'appartenir au Seigneur? Est-ce que nous sommes sûrs d'être nés de nouveau? Mais pour naître de nouveau, il faudrait d'abord avoir compris que nous étions perdus. Et s'il n'y a pas eu cette conviction de péché d'abord, eh bien, on peut se demander quelle est la réalité de notre christianisme. Et s'il y a si peu de louanges, des fois, dans nos cœurs, si peu d'amour pour le Seigneur Jésus, c'est qu'on n'a pas réalisé à quel point il nous a aimés et comment il nous a sauvés dans son amour, pour qu'un jour nous puissions être reçus par son Père comme lui-même a été reçu. C'est quelque chose. Est-ce que vous avez déjà pensé que le Père vous recevra comme il a reçu son Fils? Est-ce que vous croyez cela? C'est ce qu'il a dit. Alors nous devons le croire. Eh bien maintenant, très simplement, mais je pense que vous avez tous vos Bibles, et que vous pouvez suivre dans vos Bibles, car c'est très important. On m'a dit en Suisse, d'où je reviens il n'y a pas très longtemps, que les gens venaient encore dans les assemblées, mais qu'ils n'étaient plus avec leur Bible. On ne vient plus avec une Bible, puis évidemment, comme on a ces appareils, c'est très bien, on n'a pas même un cantique. Mais je n'ai rien contre ça. Hein. Au contraire, vous voyez tous le texte du chant que nous chantons. Alors c'est très bien cela. Je n'ai rien contre ce qui est moderne. Mais autrefois, on avait toujours le cantique avec soi. Après, on l'a trouvé aussi dans la salle. Mais on avait au moins sa Bible avec soi. Alors, je vous invite à suivre cette lecture pour que vous en soyez imprégnés. Chapitre 4, nous allons découvrir Jésus cherchant une âme. Dans le chapitre 3, nous avons vu une âme cherchant Jésus. Ici, nous voyons Jésus à la recherche d'une âme. Le Seigneur sut que les pharisiens, ces gens dont Nicodème faisait partie, des hommes qui avaient une grande connaissance de la parole, le Seigneur sut que les pharisiens avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Vous vous souvenez ce que Jean avait dit quand il baptisait et que Jésus est venu et a été lui-même baptisé? Il s'est tourné vers ses disciples et il a souligné qu'il y en avait un plus grand que lui, dont il n'était pas digne de délier la courroie de ses sandales. Hein. Et il a ajouté une parole. Et vous savez, quand vous parlez, soyez bien conscient que Dieu vous entend. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Alors, quand ses disciples se rendent compte que ce Jésus auquel Jean a témoigné fait plus de disciples que Jean lui-même, eh bien, Jean pourrait être un peu découragé. Mais Jésus ne veut pas qu'on dise, dans cette assemblée, il y a plus de conversions qu'ailleurs. C'est pas cela. Nous venons d'apprendre que Dieu, dans sa grâce, va nous donner, ou nous a donné, un nouveau local. Mais si nous pensions que certaines âmes veulent venir plutôt dans ce local que dans un autre, sans avoir une conviction profonde, eh bien nous partirions en Suisse. Nous nous en irions du Canada. Si c'est pour l'homme ou les hommes que vous voulez vous réunir, on ne se réunit pas pour les hommes. On se réunit à cause du Seigneur. Sinon on part. Nous n'avons pas une église à fonder nous-mêmes. Nous avons le désir de nous rassembler avec des enfants de Dieu qui veulent avoir le Seigneur au centre, au milieu d'eux, et le laisser agir. Le reste ne nous intéresse pas. Et voyez-vous, là vous avez tout de suite un enseignement du Seigneur. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris comment. Eh bien, il y a des bruits qui courent, hein, et qu'ils faisaient plus de baptême que Jean, que les disciples de Jean. Toutefois, il est bien ajouté que Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Il avait donné cette charge à ses disciples. Alors, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Il était déjà parti de Galilée pour venir en Judée, comme nous le voyons au chapitre 1er de Jean, et au chapitre 2 et le chapitre 3. Mais maintenant qu'il apprend que ces bruits courent, que lui fait plus de disciples que Jean, son envoyé, eh bien, il prend la décision de quitter la Judée et il repart pour la Galilée. Là, vous avez tout de suite la motivation de Jésus. Il ne veut pas qu'on fasse une propagande charnelle pour lui en abaissant un nom. Nous n'allons pas abaisser les autres. Nous allons nous réjouir de tout ce que Dieu peut faire par l'un ou par l'autre. Et dire gloire au Seigneur. Si cette assemblée prospère, si cette assemblée grandit, nous en sommes réjouis. Mais nous ne voulons pas opposer les assemblées. Verset 4. Il quitta donc la Judée. Maintenant, nous savons pourquoi il a quitté la Judée, qui était pourtant sa terre natale, hein, puisqu'il est né où ? À Bethléem, et il était venu en Judée. Mais en Judée, eh bien, il n'avait pas trouvé ce qu'il désirait. Et maintenant qu'il apprend que l'on fait toute une réclame pour lui, contre plutôt Jean-Baptiste, eh bien, il s'en va. Et le verset 4. Il fallait qu'il traverse la Samarie. Alors, je voudrais que vous puissiez voir chacun de ces mots. Il fallait. Est-ce que c'était absolument une nécessité? Est-ce que vous connaissez d'autres versets où il est parlé de Jésus en disant « il fallait » ? Il faut que j'aille à Jérusalem. Il fallait, et il explique à ses disciples, que le Christ souffrit ces choses. Ça, il le fallait. Il fallait que le Christ souffrit ces choses. Il a pu demander au Seigneur, dans l'agonie de Gethsémané, d'être épargné, mais il savait qu'il le fallait. Alors, il fallait que le Christ souffrit ces choses. Ça, il ne pouvait pas passer à côté. Alors il a pu dire, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Et vous savez, quand vous avez l'exemple de Jésus devant les yeux, quand vous avez une grosse difficulté, et que vous aimeriez bien qu'elle vous soit évitée, vous pouvez le faire, comme lui. Vous pouvez demander au Seigneur d'être délivré. Il peut vous en délivrer. Jésus a demandé d'être délivré là. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté la troisième fois dans sa prière? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Et vous savez, au cours d'un long ministère, puisque j'ai plus de 80 ans maintenant, eh bien, j'ai vu des délivrances extraordinaires. Même des enfants qui ne pouvaient pas accepter une chose que leurs parents leur demandait, c'est-à-dire que leur père avait quitté un certain endroit où ils avaient eu leurs camarades, et puis il était allé dans un autre pays, et puis maintenant il était redemandé dans un autre pays, et les enfants faisaient une terrible crise, en disant, c'est bien facile pour notre père de nous dire que c'est Dieu qui veut cela, mais nous, on avait nos camarades, on a quitté nos camarades, on a accepté ça, puis maintenant on a des nouveaux camarades, puis maintenant papa a dit que... Fermée dans la salle de bain, elle ne voulait plus voir ses parents. Alors, quand je suis arrivé, le père m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis entré vers cette petite, puis je l'ai laissée parler. Elle m'a dit toute sa rage, puis je lui ai dit, mais écoute, je comprends bien ce que tu dis, mais tu devrais faire comme le Seigneur. Tu peux lui dire, si c'était possible, qui ne partent pas, mais ajoute quand même, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et la petite me dit, oui, tu as raison. Elle a prié ainsi, elle est sortie, transformée, le père n'est pas parti. Mais elle était libérée, elle l'avait pris au mot, n'ayez pas peur que les enfants ne comprennent pas, hein. Croyez qu'ils comprennent et soyez des enfants vis-à-vis de votre Père Céleste. Vous pouvez demander à Dieu qu'il vous épargne une certaine peine, mais dites-lui toujours, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Et alors, le Seigneur vous libérera, il enlèvera ce joug et il vous bénira. Nous venons à notre texte. Il fallait qu'il traversât la Samarie. Mais ce n'était pas absolument une obligation, parce qu'il y avait un autre chemin que j'ai pris plusieurs fois. J'ai traversé souvent la Samarie quand j'étais en Israël avec des groupes. Mais il y a un autre chemin, c'est le chemin qui va par le Jourdain. On descend sur Jéricho, on suit le Jourdain, et puis on arrive en Galilée, mais on met 3 ou 4 heures de plus. Alors, donc, c'est un choix que le Seigneur a fait. Et pourquoi est-ce qu'il le fallait? Parce que lui, on peut bien le penser, savait qu'il y avait une âme qu'il devait rencontrer et à laquelle il voulait parler. Une âme qui était en peine. Il fallait qu'il traverse la Samarie. Ce n'était pas absolument nécessaire pour aller en Galilée, mais le Seigneur a choisi le chemin le plus court, mais le plus dangereux, parce que les Samaritains n'aimaient pas les Juifs. Il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs, et c'était dangereux de passer par la Samarie. Alors il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar. Ce n'était pas la capitale de la Samarie, Nablus, mais Sichar qui est le Sichem. Et qui est-ce qui est arrivé à Sichem après un long voyage et une obéissance au Seigneur? Le père de Jacob. Comment s'appelait-il? Abraham, hein? Quand Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, arrive en Canaan, il est arrivé à Sichem. C'est à Sichem, au pied de ces montagnes que nous connaissons bien et dont la femme parle dans les versets qui suivent. c'est là que je trouvais donc Sichem, Sichar, où avait été Abraham en arrivant de son long voyage. Et c'était près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Alors tout cela, vous l'avez dans l'Ancien Testament. Vous apprenez que Jacob avait un champ qu'il a donné à son fils qui était Joseph. Vous avez cela dans l'Ancien Testament, en particulier dans le chapitre 48, si je ne m'abuse, de la Genèse. C'est seulement pour situer. Au verset 21, Israël bénissant Joseph, chapitre 48 de la Genèse, lui dit « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. » Et pour que vous puissiez savoir ce qu'il y avait encore à Sichem, vous croyez qu'il n'y avait qu'une fontaine? Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le contraire d'une fontaine. Un tombeau. Et c'était quel tombeau? Le tombeau de Joseph. Prenez Josué, chapitre 24. Vous savez que Joseph, mourant, avait fait promettre à ses frères qu'il prendrait ses os et qu'il serait enterré dans la terre de Canaan. Verset 32 du chapitre 24. Les os de Joseph que les Israélites avaient fait monter d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la pièce de terre que Jacob avait achetée des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késita. Cela fait partie de l'héritage des fils de Joseph. Donc, ce que vous apprenez, c'est que là où Jésus s'est arrêté, il y avait une fontaine, un puits, hein, le puits de Jacob, mais aussi un tombeau, la vie et la mort. Alors, Jésus arrive dans la ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Donc tout cela est la vérité. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, comme c'est bouleversant de penser que Jésus, en tant qu'homme, pouvait avoir la fatigue que nous pouvons ressentir. Vous êtes fatigué parfois, souvenez-vous de Jésus. Quand il était fatigué, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le temps de s'asseoir, n'est-ce pas? Il était assis au bord du puits, peut-être sur la margelle du puits, et c'était environ la sixième heure. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous trouvez toutes ces heures-là. Qu'est-ce que c'était la sixième heure? C'était midi, c'était la fin de la matinée. Hein. C'était environ la sixième heure, c'était midi. Alors, ça, c'est le commencement, nous en parlerons demain. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Alors, qu'est-ce qui vous arrête là? Si vous avez été en Orient, est-ce que vous avez déjà vu les femmes à midi puiser de l'eau? Jamais. Quand est-ce que c'est qu'elles vont puiser de l'eau? Tôt le matin ou après le coucher du soleil, n'est-ce pas? Mais elles ne viendront jamais à midi parce qu'on ne sort pas à midi. Il fait trop chaud. Et alors, ça nous montre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Elle vient seule. parce qu'elle veut être seule, elle ne veut pas parler avec d'autres personnes, c'est qu'elle n'a pas de communication. Elle est donc très solitaire et malheureuse, c'est ce que nous allons voir. Jésus lui dit, comment est-ce que Jésus parle à cette âme? Il ne lui dit pas tout de suite, j'ai quelque chose à te donner. Il lui montre qu'il a besoin d'elle. Dans nos contacts les uns avec les autres, est-ce que nous sommes toujours sûrs que nous nous apportons tout et que nous n'aurions pas besoin de recevoir des autres? Nous allons voir cela dans ces journées. « Donne-moi à boire, lui dit-il. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Il était donc tout seul, lui. Et il la rencontre seule aussi. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ?» à moi qui suis une femme samaritaine. Parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. C'était quelqu'un qui ne devait pas lui parler. Et voilà qu'elle est très étonnée parce qu'elle le reconnaît comme étant un Juif. Elle l'a dit, hein. Comment toi qui es Juif? Elle voit bien qu'il est Juif, à son habillement, à son vêtement. Comment me demandes-tu à boire? C'est pas ce que les Juifs font. Ils se détournent des Samaritains. Ils n'ont aucun contact. Alors, la première impression que cette femme peut avoir, c'est qu'il n'est pas comme tout le monde. Eh bien, ce qu'on voudrait, quand vous témoignez, c'est qu'on puisse dire, c'est pas une personne comme tout le monde. C'est quelqu'un de différent. Il n'agit pas de la même manière que les autres. Alors, elle est étonnée. Comment, toi qui es juif, elle l'a reconnu comme étant un juif, me demandes-tu à boire à moi? Il sait qu'elle est une samaritaine, mais elle le lui dit, moi qui suis une femme samaritaine. Elle sait ce que ça veut dire. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et justement, c'est avec des gens dont on n'a pas de relation que nous devons témoigner. Vous devez bien comprendre cela. C'est d'abord avec des gens avec lesquels on n'est pas en relation. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et regardez, il ne dit pas, si tu me connaissais, hein, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et nous continuons, puisque j'ai dit que c'était une lecture d'abord, mais on s'arrête déjà un petit peu. Verset 11. Seigneur, lui dit-elle, elle le regarde aussi. Et qu'est-ce qu'elle voit? Tu n'as rien pour puiser. Quand on veut faire de l'évangélisation, nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Rien. Tu n'as rien pour puiser. Mais non, il nous faut toutes sortes de choses. Et alors, on remarque tout ce qu'on a. Et avec tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as rien pour puiser. Moi, j'aime beaucoup cette parole. Elle le remarque, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Elle commence à questionner. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alors Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelle parole! Vous allez méditer là-dessus. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi. C'est tout. Afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'était son occupation quotidienne. Quels sont vos soucis quotidiens, vos occupations quotidiennes? Pour elle, c'était sa tâche. Alors là, le Seigneur lui parle. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Moi, je trouve ça admirable et ça nous enseigne. Nous, on voudrait tout de suite garder les âmes. Puis il faut que ça se passe tout de suite. Mais il lui dit, va, mais elle ne reviendra pas. Si elle est ennuyée, nous avons peur que les âmes nous quittent. Mais non, va. Si c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas moi qui va retenir cette femme. Comprenez-vous? Et c'est cela que nous devons retrouver aujourd'hui. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Non, nous voulons préparer les âmes pour que tout de suite il y ait une âme à côté de cette âme perdue pour qu'elle puisse la tenir, prendre son nom et tout. Puis c'est pas comme cela que ça va. On donne notre nom, oui peut-être, mais après on ne veut plus de la visite parce qu'on nous a forcés, parce que on nous a piégés. Or, le Seigneur ne piège pas les âmes. Et il fait son travail. Va, dit-il. Appelle ton mari et reviens ici. Et dans cette parole, qu'est-ce qu'il touche? Sa conscience. Et voyez-vous, il faut que les consciences des auditeurs soient atteintes. C'est pas qu'elle reste avec nous. Va, appelle ton mari. Et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Il lui dit, pas menteuse. C'est ce que nous aurions dit, si soi-disant, nous connaissions la chose. Mais non, mais c'est cela qui est admirable dans ce que Jésus fait. Et il lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu un mari. Mais celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. Tu n'es pas marié maintenant avec le sixième. Tu vis avec un sixième, mais tu n'es pas marié avec lui. Mais il lui dit, sur une partie, tu as dit la vérité. Tu n'as pas de mari. Mais ça la touche. Et ça la fait rentrer en elle-même. Et puis, elle s'aperçoit qu'il connaît toute sa vie. Tu as eu cinq maris. On a raconté bien des choses sur ces maris, sur ces femmes, sur cette femme qui aurait eu cinq maris. Est-ce qu'ils étaient tous morts? Peut-être. Ça peut arriver. Ils se mariaient très tôt. Et puis, la mort pouvait les frapper, mais il y avait aussi le divorce qui était permis de ce temps-là, hein. Pas parce que Dieu le voulait, mais elle avait pu avoir son mari. Mais celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Bon, on accepte plus là aujourd'hui. Hein. Mais c'est mon chum. C'est comme si j'étais marié. C'est pas vrai, chers amis. Et je l'ai dit avec force en Suisse. Parce que ça entre un peu partout. Parce qu'on dit, mais on ne peut pas faire autrement. Le Seigneur dit, tu n'as pas de mari. Ce n'est pas ton mari. Tu n'es pas marié. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Alors, vous voyez, l'œuvre de Dieu est en train de se faire. Qu'est-ce qu'elle a vu d'abord en Jésus? Un juif. Hein? Comment, toi qui es juif. Et puis, ensuite, comment est-ce qu'elle l'a appelé dans les discussions? Elle l'a appelé Seigneur. Verset 15. Seigneur, donne-moi de cette eau, etc. Il y a trois fois, elle l'appelle Seigneur. Et puis, verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Maintenant, elle sait qu'il est prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Alors elle lui parle de religion. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Elle sait certaines choses au point de vue religieux. Il y a les divisions. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, qui était le mont Garizim, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et c'est la première fois que l'on trouve cette expression, le Père. Dieu est appelé le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, les Samaritains avaient gardé l'Ancien Testament, enfin les saints livres de Moïse, et ils pensaient connaître la parole, mais ils ne savaient pas ce qu'ils adoraient. On aurait pu leur dire qu'ils pouvaient mettre au Dieu inconnu, en quelque sorte. Vous adorez, nous adorons ce que nous connaissons. Jésus se met avec les croyants, car le salut vient des Juifs. C'est la révélation. Mais l'heure vient, et elle, c'est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà la grande révélation que le Seigneur fait à cette femme. Et alors la femme lui dit, je sais que le Messie vient. Figurez-vous que les Arabes attendaient le Messie. Hein? Et aujourd'hui encore. Les Arabes attendent la venue du Seigneur, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Vous voyez qu'il y a des âmes qui ont la soif d'être éclairées. Jésus lui dit, et c'est ça qui est merveilleux, je le suis, moi qui te parle. Il ne se cache pas. Ailleurs, il avait dit à ses disciples de ne pas dire qu'il était le Christ, hein, en Galilée ou en Judée, parce qu'on lui faisait une espèce de propagande fausse. Mais à la femme samaritaine, il a pu se révéler comme étant le Christ. Alors arrivent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Et qu'est-ce qui arrive? Verset 28. La femme laissa sa cruche. Ce qui l'avait tellement préoccupée, ce qui était son souci de tous les jours. Elle s'en alla dans la ville et elle témoigne. Elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? C'est tellement beau. Elle confesse que Jésus lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Il n'y a pas de détails. Mais il lui a parlé, pas seulement de ses saints maris, mais de l'état dans lequel elle se trouvait. Elle a été touchée. Alors ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Parce qu'on la connaissait. Pendant ce temps, les disciples, alors là, nous avons un interlude et nous avons là la discussion de Jésus avec ses disciples. C'est ce qui nous occupera dimanche après, samedi après-midi. Pendant ce temps, les disciples criaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Puisqu'il le voyait avec une femme, eh bien, il pouvait se demander d'autres personnes avaient pu lui donner à manger. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Il doit y avoir de la joie pour celui qui sème, et il y a aussi de la joie pour celui qui moissonne. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle qui aurait eu honte de rencontrer ces gens-là, maintenant elle les rencontre et elle confesse qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'elle avait fait. Ainsi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Est-ce que vous vous souvenez d'un autre passage où on a demandé à Jésus de quitter le territoire, quand il avait délivré le démoniaque? Hein, ils le prièrent de quitter le territoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu les cochons. Ils avaient préféré les cochons à Jésus. Alors Jésus est parti, puisque vous ne me voulez pas. Il est parti, vous avez ça dans Marc 6. Et puis même en Galilée, on avait voulu le jeter en bas de la montagne, dans son propre pays. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Puisque Jésus est resté, elle a donné la possibilité à Jésus de les enseigner. Et qu'est-ce qu'il disait à la femme? Et c'est ça qui est merveilleux, et c'est avec ça que nous terminons pour ce soir. Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons. Donc, il ne reste pas attaché à la femme. Ce n'est plus à cause de tes dires ou des dires d'un prédicateur, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Eh bien, méditez vous-même sur ce chapitre. Demain, nous reprendrons les versets 1 à 6, l'occasion du départ de Jésus. Puis nous verrons dans l'après-midi l'entretien, versets 7 à 26, puis l'intermède, versets 7 à 38, et nous recevrons ce que le Seigneur veut nous dire, et enfin nous finirons par le résultat dans les versets 39 à 42. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander que maintenant par ton esprit, nous puissions être à ce puits de Sichar et assister à ton entretien avec cette femme. Comment tu l'as commencé? Comment tu l'as contacté? Afin que nous sachions aussi comment nous pouvons contacter des âmes que nous ne connaissons pas, ou qui ne voudraient rencontrer personne. Et que dans ta grâce, instruit par ton esprit, convaincu que tu es le don de Dieu et que nous pouvons connaître en toi toutes les richesses du ciel,
car tu les as en toi. Toute la plénitude de la divinité s'est pu habiter en toi. Et en toi, nous trouvons le Père, nous trouvons le Fils, nous trouvons le Saint-Esprit, le Dieu unique, béni éternellement, et qui veut être pour nous, dans cette fin d'économie, le Dieu libérateur, le Dieu sauveur, que nous pouvons aussi appeler le sauveur du monde, mais notre sauveur, qui nous sauve aujourd'hui, dans toutes nos difficultés, pour que nous puissions être, dans notre vie, une louange de gloire, qu'on n'entende plus de murmures sur nos lèvres, mais que nous puissions être de ceux qui célèbrent ton amour en t'attendant, et que nous soyons de ceux qui vivent dans cette attente de ton retour. C'est la grâce que nous te demandons en te priant de nous parler durant cette nuit. Tu en donnes autant à tes bien-aimés dans leur sommeil, et nous voulons te demander que maintenant que nous nous taisons, que ta parole puisse agir dans nos consciences et dans nos cœurs, pour que tout soit réglé avec toi, et que nous connaissions ce bonheur dont nous avons chanté quelque chose ce soir. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.